Nous allons commencer par la prière avant le message. Seigneur, dans la communion avec toi, tu peux nous parler à travers différentes méthodes, occasions. Et là, ce matin, nous intégrons cette parole que nous allons partager ensemble. Qu'elle nourrisse d'abord l'orateur. Et qu'elle se transforme en éclairage dans notre cœur, nous parler ce matin. Peut-être nous avons des questionnements, nous avons des interrogations. Eh bien, Seigneur, je te prie de permettre, à travers ce partage, que ce soit un éclairage pour nous et pour moi le premier. Nous nous remettons entre tes mains et que ta volonté se fasse. Amen. Eh bien, je ne vais pas vous mentir pour dire que ce sera la continuité de ce que nous avons partagé ce matin. Et surtout, ça sera aussi, c'est en fait, je dirais, c'est ce que nous avons déjà commencé mercredi soir. Le mercredi soir, nous sommes dans un sujet, on se débat, on se bat, bah, fraternellement, bien entendu, bah, sur des questions de Romains 6. Si vous lisez la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, dans le chapitre 6, où il est question, eh ben, Seigneur, je veux bien faire le bien, j'ai envie de faire le bien, mais j'arrive pas à le faire. Oui, c'est une confession de l'apôtre Paul, on pourrait le faire aussi. Et le mal que je ne veux pas faire, je veux me délivrer, mais c'est celui qui me colle à la peau. Et je pousse, il a poussé ce cri, hein, il a dit, Seigneur, qui me délivre de ce corps de mal, ou, si vous voulez. Voilà. Oui, l'apôtre Paul s'est crié. Eh bien, nous allons parler de notre mort avec Christ, mais ça sera qu'un grain de sable sur la réalité que le Seigneur peut nous révéler. Mais c'est comme, je dirais, une ouverture de ma part que d'un enseignement. De toute façon, que je suis devant, ce n'est pas un enseignement, c'est un partage. C'est un partage que je m'adresse à moi-même avant de partager avec vous. Eh bien, ça fait la suite de notre rencontre du mercredi soir, et on continue sur ce même sujet-là. Que chacun va lire le Romains chapitre 5, 6, 7 et 8, et on en discute, on en parle, et à travers notre discussion, le Seigneur nous éclaire. Là, nous éclaire. Mais ce matin, je regarde, comme d'habitude, je regarde dimanche matin avant de venir à l'église, pas toute la matinée, mais une partie de la matinée, j'aime regarder une émission sur la 2. Oui, ça fait des années, et je continue. Eh bien, c'est une émission sur les religions, sur les... Et dedans, il y a, bon, il y a l'islam, il y a le judaïsme. Et j'aimais bien cette émission-là avant le décès de José Eisenberg. J'aime bien écouter cet érudit juif qui parle de la culture hébraïque. Mais aussi, il y a les protestants, il y a les anglicans, les catholiques, les orthodoxes. Et ce matin, il y avait juste un témoignage qui m'a touché par un orthodoxe, qui est une personne âgée. Et qui fabrique pour l'encens. Et on lui a posé juste une question. On lui a dit, mais la liberté pour vous, c'est quoi? Il dit, oh, la liberté. Je sais ce que c'est que la liberté parce que je suis issu du pays de l'Est. Je n'avais pas de liberté. Quand je suis venu en Occident, j'ai compris la liberté. Il a dit, maintenant, posez la question à ceux qui sont nés dans la liberté. Ils ne sauront pas vous répondre. Vous voyez là-dessus. Pour connaître la liberté, il faut connaître la privation de liberté. Pour avoir du sens, la liberté. Mais ceux qui sont nés dans la liberté, ils sont nés dans la liberté. Alors on leur dit ce que c'est que la liberté, mais ils ne peuvent pas la prendre en comparaison par quelque chose qui n'est pas la liberté. Donc ça reste ce qu'on appelle la séduction. Vous voyez? Donc oui, et ça, c'est que pour goûter à la vie, quel est le sens de la vie? Si je ne connais pas la mort. Ça me paraît même logique. Si, voulez-vous que je vous parle de la vie? Mais par rapport à quoi je parle de la vie? Par rapport à la mort. Donc, pour avoir la vie, il faut passer par la mort. Vous voyez? Encore une fois, le message de la croix. Le jour même, le jour, quand je dis le dimanche, comment voulez-vous que je vous parle du jour, lumière, si je ne passe pas par la nuit? La nuit donne sens à la lumière. La mort donne sens à la vie. La privation de liberté donne sens à la liberté. Ça ne veut pas dire qu'il faut la chercher coûte que coûte. Mais il ne faut pas oublier que les deux font un. Une pièce de monnaie, c'est pile ou face. Je ne peux pas dire que la pièce de monnaie, c'est seulement pile. Non, il y a face aussi qu'il ne faut pas que j'oublie. Donc, pour avoir la vie en Christ, il faut expérimenter la mort. Si je dis que je suis né de nouveau, donc la vie chrétienne, c'est la vie, 50% du message chrétien, c'est que Christ n'est pas directement ressuscité, n'est pas monté directement au ciel. Il peut, il aurait pu le faire. Dieu est souverain. Il aurait pu dire, mais écoutez, mon fils, non, tu ne vas pas passer par la mort. Je vais te monter directement au ciel et je vais quand même pardonner. Il aurait pu le faire. Qu'est-ce qui l'empêcherait de le faire? C'est Dieu. Non, même Dieu lui-même, il a dit que mon fils doit passer par la mort pour avoir donné du sens à la vie, la résurrection. Qui sommes-nous pour ne pas suivre le même chemin? Et nous nous disons, non, le chrétien ne doit pas souffrir, le chrétien doit être toujours joyeux, le chrétien, etc. Mais non, nous sommes appelés à suivre le même chemin, c'est ça, porter sa croix tous les jours. C'est fait, c'est accompli, nous sommes célestes, c'est une réalité. Mais nous sommes appelés à rentrer dans le même chemin ici-bas, dans notre propre vie, pour vivre cette métamorphose tous les jours, mort, résurrection, mort, résurrection, mort, résurrection, cette pièce pile ou face tous les jours. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire pour moi aussi. Et pourtant, ça fait partie du chemin du chrétien pour hériter le royaume des cieux et pour faire partie de cette église que Dieu est en train de préparer depuis toujours pour qu'elle aille à la rencontre de son Fils quand il reviendra. C'est cette église-là qui ira. Cette église qui est sanctifiée. Cette église qui est métamorphosée, cette église qui est passée par le trou, ce chemin difficile qui a permis sa transformation, qui aura le privilège d'aller à la rencontre de son église? Dire cela, je prends le risque de dire, d'autres sont exclus. Et ça ne remet pas en question la grâce. La grâce de Dieu, ça ne veut pas dire que vous êtes sauvés, faites ce que vous voulez. La grâce de Dieu, c'est vous avez reçu la vie, mais laissez cette vie vous transformer. Vous voyez, c'est complètement, c'est pas du tout la même chose. Et là, notre passage, c'est dans Romains chapitre 6, verset 1, 11. Et le sujet de notre partage, c'est notre mort avec Christ est un fait non seulement spirituel, mais il est historique aussi. Parce que quand on lit Romains, et c'est le cas de nous tous, on est tous pareils, hein, dire le contraire, c'est se mentir. On a tous essayé de prendre le contrôle sur nous-mêmes, on a tous essayé de changer, on a essayé de transformer, de se libérer, etc. Et souvent, on arrive devant un mur, on dit, oh, j'ai failli. Et on tombe dans la dépression, et ça ne va pas, et voilà, on commence à poser des questions. Eh bien, nous allons essayer de voir cette situation à travers ce passage-là. Romains 6, versets 1 à 11. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Oui, c'est écrit au passé, hein. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié. Je le répète. Sachant que notre vieil homme a été crucifié. Je le répète. Sachant que notre vieil homme a été crucifié. Sera pas crucifié. A été crucifié. C'est fait. A été crucifié. Avec lui. Afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Je le répète, ce dernier passage. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Parce que c'est une réalité. Même si vous ne la voyez pas dans vos membres. Ne croyez pas au mensonge qui vous dit, regardez, vous péchez. Vous péchez, donc, vous n'êtes pas mort avec Christ. Non, même si une autre loi continue à vivre dans mes membres, je suis quand même mort avec Christ. Et le diable fera tout pour nous sortir de cette position-là. Il nous ramène à Thomas. Je crois ce que je vois. Si vous voulez que je croie que je suis mort avec Christ, ben montrez-moi que je ne pêche pas. Et hop, on est déstabilisé. C'est vrai. Et ben hop, et notre position disparaît. Et le diable, en train d'applaudir, il est super, je les ai fait, voilà, quitter la position. Même si notre vie, nous n'arrivons pas à nous libérer, même si dans notre vie, nous n'arrivons pas à changer, comme nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu la vie, nous sommes morts à nous-mêmes et nous sommes libres du péché. C'est très difficile. Parce qu'il nous ramènera toujours sur le voir, sur le sentir, sur une définition. Et bien, c'est une réalité. Il sait bien de nous le rappeler. Dans ces versets, il est clair que la mort du Seigneur Jésus est représentative et inclusive. C'est-à-dire, elle nous fait participants à cette mort. Dans sa mort, nous sommes tous morts. Aucun de nous ne peut progresser spirituellement sans avoir vu cela. Si nous ne réalisons pas, jour après jour, que nous sommes déjà morts, nous ne pourrons pas vivre cette vie chrétienne libre. Nous serons toujours dans les efforts, dans le remords, dans la culpabilité. Je ne dis pas que la culpabilité est mauvaise, parce que je ne suis pas de ceux qui disent que la culpabilité est bonne, parce que si je culpabilise, c'est que je me rends compte que j'ai fait mal. Mais rester dans le mal et remettre en question ma position avec Christ, là, c'est le vrai mal. De même que nous ne pouvons pas obtenir la justification si nous ne l'avons pas vue, c'est-à-dire le Seigneur, porter nos péchés sur la croix. Nous ne pouvons pas avoir la sanctification si nous ne l'avons pas vue, nous porter sur la croix. Non seulement il a porté nos péchés, le Seigneur, mais nous avons nous-mêmes été placés en lui sur la croix. Il y a plus de 2000 ans qu'il était sur la croix, nous étions en lui. Ne regardez pas seulement cet être physique qui était sur la croix, mais faites en sorte que vous-même, Dominique, toi, il y a plus de 2000 ans, Jésus était sur la croix, tu étais avec lui. Tu es mort avec lui, mais tu ne t'as pas laissé dans la mort. En ressuscitant, il t'a ressuscité avec lui. Et il t'a donné la vie, et c'est celle-là que tu portes aujourd'hui. Comment avons-nous reçu le pardon? Nous avons réalisé que le Seigneur Jésus est mort comme notre substitut. On est tous pareils, on a cru ça. Qu'il a lui-même porté nos péchés et que son sang a été versé pour nous laver de toutes nos souillures. Quand nous avons vu que nos péchés avaient tous été mis sur la croix, qu'avons-nous fait? Quand nous avons réalisé que le Seigneur a pris nos péchés sur la croix, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on s'est dit, Seigneur Jésus, s'il te plaît, viens et meurs pour mes péchés? Non. Nous n'avons même pas prié dans ce sens-là. Nous avons seulement remercié le Seigneur et nous ne l'avons pas supplié de venir, car nous avons réalisé qu'il l'a déjà fait. C'est ce qu'on a fait. On est tous pareils en tant que chrétiens. Nous avons remercié le Seigneur de ce qu'il a fait, mais on ne lui a pas dit, Seigneur, viens faire. Non, tu l'as déjà fait, Seigneur, je te remercie, je te loue. C'est vrai qu'il est facile d'accepter le pardon parce que c'est intangible. C'est quelque chose on ne peut pas maîtriser. Donc c'est facile de croire au pardon. Seigneur, tu as fait, tu m'as pardonné. Mais quant à la délivrance, il faut que je vois du concret pour le croire. Vous voyez, ça c'est l'humain. Le Seigneur nous dit, je vous ai pardonné, je vous ai délivré. Seigneur, d'accord, pour le pardon, je crois. Mais pour la délivrance, il faut que je le voie. Le même Seigneur qui a dit, vous êtes pardonné, il a dit, vous êtes délivré. Alors pourquoi je crois au pardon? Parce que c'est intangible, quelque chose que je ne touche pas, d'accord? Mais pour la délivrance, là, je veux bien le croire, mais il faut que je le voie en moi. Thomas. Ce qui est vrai pour notre pardon l'est aussi pour notre délivrance. L'œuvre est accomplie. Il n'y a plus besoin de prier, mais simplement de louer. Et merci pour le psaume 33. Dieu nous a tous mis en Christ, de sorte que lorsque Christ a été crucifié, nous avons aussi été crucifiés. Il n'y a donc aucune raison de prier de la sorte comme « Seigneur, je suis une personne très mauvaise, Seigneur, crucifie-moi s'il te plaît !» Non, c'est déjà fait. C'est complètement faux. Nous n'avons pas prié au sujet de nos péchés. Pourquoi prions-nous à notre sujet, à nous, de nous-mêmes? Puisque nous sommes portés, nous avons été portés avec lui. Nous sommes morts avec lui et en lui. Nos péchés ont été traités par son sang et sa croix s'est occupée de nous. Le sang versé nous pardonne de nos péchés, mais quand il est crucifié à la croix, c'est toute ma nature qui est crucifiée avec lui. C'est un fait accompli. Tout ce qu'il nous reste à faire est de louer le Seigneur, de ce que lorsque Christ est mort, nous aussi sommes morts. Nous sommes morts avec lui. Louons-le pour cela et vivons à la lumière de cette parole, de ce verset dans Psaume 106, verset 12. Ils crurent à ces paroles. Ils chantèrent ses louanges, tout simplement. Psaume 106, verset 12. Croyons-nous en la mort du Seigneur Jésus-Christ? Je ne sais pas, j'espère que personne ne dira non. Bien sûr que nous croyons en la mort du Christ. Eh bien, les mêmes Écritures qui disent qu'il est mort pour nous, ces mêmes Écritures nous disent que nous sommes morts avec lui. C'est la parole qui le dit. Regardons à nouveau quelques passages. Romains, chapitre 5, verset 8. On va prendre juste quelques passages pour nous rappeler ce que... Alors, 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est la première phrase qu'on trouve dans Romains qui nous parle Christ est mort pour nous. Une des phrases. Mais les versets suivants sont-ils moins clairs quand je lis, par exemple, dans Romains 6, verset 6, Romains chapitre 6, verset 6, Nous croyons ce que je viens de lire. Mais la même parole nous dit après, dans chapitre 6, verset 6, « Notre vieil homme a été crucifié avec lui. » Nous le croyons, c'est écrit. Et dans Romains 6, verset 8, il est dit, « Nous sommes morts avec Christ. » J'ai ajouté d'autres passages, comme Colossiens, chapitre 2, On peut en trouver plusieurs. Hein, Alors, Colossiens 2, 12. Alors, 2, 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu. C'est une question de foi, par la foi. Toujours Colossiens. Chapitre 3, verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Nous le croyons? Bien sûr que nous le croyons. Galates 3, verset 26-27, où il nous rappelle, je vous laisse lire ce passage aussi, où nous rappelle que nous sommes déjà morts. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, dans Galates 2, 20, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc vous voyez, les passages comme ça, on peut en trouver, qui nous rappellent que nous sommes, non seulement le Christ est mort pour nous, mais nous sommes morts avec lui. Quand sommes-nous crucifiés avec lui? Quand sommes-nous crucifiés avec lui? Quelle est la date de crucifixion de notre vieil homme? Est-ce aujourd'hui, hier, peut-être demain? Vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est déjà fait. Du moment que nous sommes nés de nouveau, nous réalisons cette réalité-là. Mais la nouvelle naissance est importante et indispensable. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, je ne peux pas rentrer dans cette réalité où je suis déjà mort avec Christ. Mais qui est mort, il y a la vie, la résurrection. Certains parmi nous, ici ce matin, sont venus à deux. Jean-Louis et Raymond sont venus à deux. Donc ils peuvent dire, nous avons voyagé ensemble. Si vous me dites le contraire, il y a un problème. Vous pouvez dire, mon épouse ou mon époux est venu avec moi ici. Mais nous pouvons dire aussi, Raymond peut dire aussi, je suis venu avec lui. Comme Jean-Louis peut dire, je suis venu avec elle. S'il a été arrivé il y a 3 jours et le second seulement aujourd'hui, il y a un problème. Mais comme nous sommes venus ensemble, ils peuvent dire, nous pouvons l'affirmer l'un ou l'autre avec autant de certitude parce que pour tous les deux, ce sont des faits historiques qui sont venus à deux. C'est une certitude. Et bien exactement la parole de Dieu nous dit. Jésus nous dit qu'il y a un peu plus de 2000 ans, vous étiez avec moi. Donc nous pouvons dire, il était avec nous. Donc c'est un fait historique, même pas spirituel, historique même. Physiquement, historiquement, nous étions avec lui. Croyons-le, parce que la parole le dit. J'ai été crucifié quand Christ a été crucifié. Christ a été crucifié quand j'ai été crucifié. Car ce ne sont pas deux faits historiques, mais un seul. Ma crucifixion a été avec lui. Christ a-t-il été crucifié? Je le crois. Eh bien, j'étais crucifié avec lui. Il y a un peu plus de 2000 ans. Louons le Seigneur d'être mort. Louons le Seigneur parce qu'il est mort à ma place, mais il m'a porté avec lui à la croix. De telle sorte que lorsqu'il est mort, je suis mort. Et si je crois dans sa mort, si je crois dans la mort du Seigneur Jésus, alors je peux croire dans ma propre mort aussi sûrement que je crois dans la sienne, même si je ne la vois pas dans mes membres de tous les jours. Remettre ma crucifixion avec le Seigneur, en la liant à ma conduite, c'est que je remets en question cette réalité qui s'est passée à la croix. C'est en découvrant, en réalisant petit à petit cette réalité déjà accomplie, que je peux vivre la libération de tous les jours. Je n'ai pas le passage en tête, mais il y en a un qui dit, vous êtes mort avec Christ. Et plus loin, c'est marqué, faites mourir les œuvres de la chair. Je n'ai pas la référence en tête, mais ça veut dire que vous ne pouvez vivre la libération, c'est-à-dire la transformation, faire mourir les œuvres de la chair, c'est-à-dire vivre le changement, que si je réalise que je suis déjà mort. Donc c'est une question de révélation dans le cœur, mais ce n'est pas question de me le répéter, mais que je prie le Seigneur qui me révèle cette réalité. Plus je la découvre, plus je rentre dans une liberté, dans une libération toute naturelle. Et ça m'évite de me forcer, de fournir des efforts inutiles. Je le crois, même si une autre loi accompagne ma nature adamique. Pourquoi croyons-nous que le Seigneur Jésus est mort? Sur quoi nous appuyons-nous pour croire cela? Est-ce parce que nous ressentons qu'il est mort? Non, nous ne l'avons jamais ressenti. Ou peut-être qu'il y en a quelques-uns qui l'ont ressenti, je ne sais pas, mais moi je n'ai jamais ressenti ça. Et pourtant je le crois. Nous le croyons parce que la parole de Dieu le dit. Quand le Seigneur a été crucifié, deux brigands ont été crucifiés en même temps que lui, avec lui. Nous ne doutons pas non plus du fait qu'ils ont été crucifiés avec lui. Mais nous le croyons parce que la parole le dit. Eh bien, ne doutons pas non plus de notre crucifixion avec lui, parce que la parole le dit aussi. C'est la même parole. Nous croyons en la mort du Seigneur Jésus et nous croyons dans la mort des brigands avec lui. Maintenant, qu'en est-il de notre propre mort? Notre crucifixion est plus intime que la leur, ces deux brigands. Les deux brigands étaient à côté de lui. Mais nous, c'est plus intime. Nous sommes en lui, avec lui. C'est encore plus de poids et plus de valeur. La même croix que lui. Il viendra le jour où la croix fera son œuvre en nous, d'une manière pratique. sur la base de cette révélation que le Seigneur nous doit nous éclairer, nous montrer dans notre cœur, que nous sommes morts avec lui. C'est une réalité qui émerge de notre nouvelle naissance. Si nous avons reçu le Seigneur dans notre cœur, il nous montre que nous sommes pécheurs. Il nous montre qu'il est mort pour nous. Et il nous montre aussi que nous sommes morts avec lui. Plus cette réalité grandit en nous, plus le voile se déchire. Et d'un seul coup, nous nous rendons compte, tout naturellement, peut-être surpris, d'une libération sans effort. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Les efforts, d'un seul coup, on se rend compte que ce sont des efforts vaines ou vains. Comment pouvons-nous le savoir si nous sommes morts à nous-mêmes? Nous pouvons le savoir simplement parce que la parole le dit. Cela ne dépend pas de nos sentiments. Si nous sentons que Christ est mort, il est mort. Si nous ne sentons pas qu'il est mort, il est quand même mort. Si nous sentons que nous sommes morts, nous sommes morts. Mais si nous ne sentons pas que nous ne sommes pas morts, nous sommes quand même morts. C'est ça, je dis, le mensonge du diable. Il fera tout pour l'Église, pour dire, regardez votre conduite, regardez ici, donc vous n'êtes pas mort. En Christ, je suis mort. Mais plus cette réalité se grandit en moi, plus je vivre d'une manière pratique cette victoire tous les jours. Ce sont des faits divins. Que Christ soit mort est un fait. Que les deux brigands soient morts est un fait. Et que nous soyons morts aussi avec lui est un fait. Je le répète, nous sommes morts. Nous sommes finis. Nous sommes mis de côté. Le moins que nous haïssons est sur la croix en Christ. Et celui qui est mort est libre du péché. Romains 6, verset 7. C'est cela l'évangile pour les chrétiens. Notre crucifixion ne peut jamais être rendue effective par notre volonté ou nos efforts. Au meilleur des cas, on crée des religions. Au meilleur des cas, des religions. La religion ne sauve pas. Mais seulement en acceptant ce que le Seigneur Jésus a fait à la croix. Nos yeux doivent être ouverts pour voir l'œuvre accomplie au calvaire. C'est une question de découverte par le cœur. C'est une question de révélation, priant le Seigneur qui nous révèle cette réalité-là. Nous avons lu la Bible, nous avons prié, nous sommes allés à l'église, nous vont à l'église tous les dimanches, la réunion les mercredis, et avons donné l'aumône, nous aidons, nous donnons notre argent, tout. Mais un jour, nos yeux s'ouvriront et nous verrons que nous sommes morts avec Christ. Et toutes ces choses-là, ce ne sont pas indispensables. Même, je dirais, ce n'est pas la condition pour vivre la vie chrétienne. Nous réaliserons que le salut complet avait été préparé pour nous à la croix. Toujours retour à la croix. Nous avons simplement accepté cela. Nous avons remercié Dieu et la paix et la joie ont rempli notre cœur. Eh bien, le salut et la sanctification sont exactement sur la même base. Nous avons reçu la délivrance de nos péchés de la même manière que nous avons reçu le pardon de nos péchés. Nous avons reçu la délivrance de nos péchés de la même manière que nous avons reçu le pardon de nos péchés, même si je ne vois pas les fruits tout de suite. Nous sommes libres, nous sommes délivrés en Christ. Car le moyen que Dieu utilise pour délivrer est complètement différent de celui des hommes. Celui des hommes, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour que je croie, il faut que je le voie. Pour croire que je suis délivré, il faut bien que je sois délivré. Je ne mens plus, je ne vole plus, etc., etc. Ça, c'est la manière des hommes. L'homme essaie de supprimer le péché en cherchant à le surmonter. Dieu agit en mettant le pécheur de côté. Oui. Nous cherchons à côtoyer. Je garde la même nature, mais on essaie qu'il plaît à Dieu en changeant. Dieu lui dit, à quoi ça sert alors que j'envoie mon fils mourir? Si vous voulez utiliser votre nature pour me plaire, puisque je l'ai crucifié, votre nature n'a d'autre place que de rester crucifié à la croix. Beaucoup de chrétiens se plaignent de leur faiblesse, pensant que tout ira bien si seulement ils étaient plus forts. L'idée selon laquelle l'échec à mener une vie sainte est due à notre impuissance et que quelque chose de plus est donc attendu de nous, conduit naturellement à cette conception erronée de la façon d'être délivré. C'est le message chrétien à l'envers. Celui qui ouvre son cœur, je rentre et je souperai avec lui. Jésus, c'est dans l'Apocalypse, Le Seigneur le dit dans chapitre 3, verset 20. Celui qui ouvre son cœur, je rentre et je souperai avec lui. Qui dit souperai avec lui? J'emmène la nourriture. Il n'a pas dit dans votre cœur préparé, Abdel prépare le couscous. Et je vais rentrer manger avec toi le couscous, je ne sais pas quoi. Non, non. Il a dit non, non, ouvre ton cœur, moi j'emmène tout. Il a dit pas de problème, moi je viens, j'emmène la choucroute avec moi. Voilà. Et c'est moi qui emmène la nourriture. Moi, seule chose, c'est ouvre ton cœur. Et moi, je rentre, j'emmène. Ça veut dire qu'il va donner sa propre nourriture. C'est quoi sa nourriture? La croix. Tu es mort et tu es ressuscité. Tu es assis à la droite du Père. C'est ça que je te donne comme manger. Mange ça. Et plus quand tu seras rassasié de ça, tu verras que ta vie va changer petit à petit. Je termine. Si nous sommes préoccupés par la puissance du péché et par notre incapacité à y faire face, alors nous allons tout naturellement conclure que pour avoir la victoire sur le péché, nous devons avoir davantage de puissance. Et souvent on nous le dit, Seigneur, me donne-moi la force pour me délivrer, pour me libérer, j'arrive pas. Nous disons, si seulement j'étais plus fort, je pourrais surmonter mes violentes sauts d'humeur. Je pourrais arrêter de mentir. Je pourrais arrêter d'avoir des pensées malsaines. Je pourrais me délivrer de certaines addictions. Et j'en passe, hein, je peux. Je suis même prêt à faire un travail sur moi-même. Je peux aller voir les psychologues, les psychiatres, faire de la méditation, sophrologie, tout ce que vous voulez. Hein. Allez, trouvez tout ce que vous voulez. Oui. Si seulement. Et nous plaidons avec le Seigneur pour qu'il nous rende plus forts afin de mieux exercer notre contrôle sur soi. Vous savez que c'est prêché dans les églises, c'est ce que je viens de dire. Travaille sur soi. Malheureusement. Mais cela est complètement faux et archi faux. C'est l'évangile à l'envers. Ce n'est pas le christianisme. Le moyen que Dieu utilise pour nous délivrer du péché n'est pas de nous rendre plus forts, mais de nous rendre de plus en plus faibles. Et merci pour les chants de ce matin sur les épreuves. Vous voyez, l'épreuve trouve sa place. Nous dirons peut-être que c'est une façon particulière d'obtenir la victoire, mais c'est la voie divine. Dieu nous a rendus libres de la domination du péché, non pas en fortifiant notre vieil homme, mais en le crucifiant. Non en l'aidant à faire quoi que ce soit, mais en le supprimant de l'équation. Nous avons peut-être essayé sans succès, pendant des années, d'exercer le contrôle sur nous-mêmes. Et c'est peut-être encore le cas ce matin. Mais une fois que nous avons vu la vérité, nous reconnaissons que nous sommes réellement trop faibles pour faire quoi que ce soit. Et qu'en nous mettant complètement de côté, Dieu a tout accompli. Une telle révélation met fin à nos propres efforts. Et c'est quand les efforts humains, quand les efforts de l'homme s'arrêtent, celle de Dieu commence. Car en dehors de Christ, nous ne pourrons rien faire. C'est la seule issue que Dieu nous ouvre les cœurs, qu'il nous révèle cette réalité-là, pour qu'on puisse vivre réellement cette libération qui devient liberté de tous les jours. C'est difficile pour vous, c'est difficile pour moi, et pourtant, c'est la parole de Dieu. Amen.